maître Philippe Crouzet. Spécialisé en droit fiscal et constitutionnel, qui possède son cabinet d'avocats à Zurich. Nous avons déjà tous entendu parler de lui. Depuis 2020, il a porté devant les tribunaux plus de 22 procédures au total concernant tout le Covid, ceci afin de rétablir la normalité constitutionnelle fondée sur la loi et l'évidence. À la suite de ces procédures, le tribunal fédéral a statué qu'un résultat positif au PCR ne pouvait pas garantir servir de preuve de maladie. Il prend régulièrement la parole lors de rassemblements en faveur des droits civiques. Il est cofondateur et coprésident du comité des juristes suisses. En novembre 2022, lui et son équipe ont publié, avec 4 scientifiques, la plainte pénale la plus complète jamais déposée contre une institution suisse, donc la plainte pénale contre Swissmedic, pour avoir autorisé illégalement les injections Covid à base d'ARN messager. Il travaille actuellement avec une équipe d'avocats et d'experts internationaux sur la question de l'OMS et de ses propositions de modification du RSI, ainsi que de la création de ce nouveau traité ou convention pandémique. Je vous demande d'accueillir chaleureusement cet avocat hors du commun, maître Philippe Crouzet.
D'accord. Merci beaucoup pour ce bon accueil. Très chaleureux et surtout merci beaucoup aux organisateurs de cette petite conférence. C'est vraiment remarquable de voir ces deux jeunes dames de Re-Info Suisse International de nouveau de faire ces événements qui servent à un échange de pensées pour nous tous et aussi à nous renforcer que nous tous sommes sur le bon chemin. Voilà. Parce que ce n'est pas facile pour nous tous d'accepter que les fondements, les principaux fondements de notre culture, ce n'est pas seulement la loi, mais c'est notre culture, nous ont été prises. Et je parle de la liberté de penser et de la liberté de s'exprimer, de dire son opinion, et surtout dans la science, c'est absolument normal d'avoir différentes opinions tout en même temps au concours de la meilleure solution. Et surtout si on parle des mesures qui ont un effet négatif pour les gens, pour la population, alors on a un principe très très simple, et le principe est comme suit: le plus grave un effet d'intervention de l'État et se matérialise, le plus bon doit être la justification, et le plus clair doit être visible, cette justification. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas encore une justification claire et convaincante en ce qui concerne ce statut d'émergence de l'OMS, et pour toutes les mesures, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore vu un propre débat public. Et nous, il faut insister que ce débat public se déroule et que cette amélioration, cette augmentation de pouvoir de l'OMS va être terminée. Voilà. Alors, d'ici, je le prends sur quel point Alors, comme c'était dit, oui, j'ai fait plus que 20 procédures contre tous les types de mesures dans les derniers 3 ans. Et dès le début, j'ai vu naturellement cette dimension de violation de nos droits. C'était vraiment comme dans un movie de horror movie. Jamais avant dans notre histoire, dans notre pays, l'État a produit des interventions avec un effet tellement intense pour toute la population, pour tellement long de temps, pas seulement pour 2 semaines ou 1 semaine, mais pour plusieurs mois et plusieurs fois. Alors là, se pose la question, est-ce que c'est un peu plus que seulement une violation de nos droits fondamentaux? Dès le début, je n'ai pas vu directement la réponse. Mais maintenant, après 3 ans, on voit clair que c'est vraiment, il s'agit pas seulement d'une violation consécutive et multiple et prolongée de nos droits fondamentaux, mais d'une attaque à notre système démocratique. Il s'agit d'une attaque à notre constitution et à toute notre culture libre. Et ça, puisque je suis arrivé à ce point-là, j'aimerais bien le partager. Alors, voilà. La structure, oui. Le point numéro 2, je ne vais plus présenter l'OMS parce que ça a bien été fait par Chénas, merci beaucoup, aussi par Astrid, absolument. Et puis après, oui, je vais brièvement présenter le nouveau concept qui est représenté par ces 2 instruments. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà maintenant? Et puis après, je vais essayer de le juger, de l'interpréter en ce qui concerne cette question. Puis après, on va parler des détails supplémentaires peut-être et arriver à une critique finale et naturellement à des recommandations. Ça, je vais sauter jusqu'à un certain point qui est vraiment important et c'est l'idée originale de l'OMS, naturellement, était, comme ça a déjà été dit plusieurs fois, de servir comme plateforme de compétences dans des situations de menace contre une menace pour la santé d'une escalade globale. Voilà, une plateforme de know-how et aussi de présenter un mécanisme d'alarme qui pourrait avertir les gouvernements, il faut se préparer ou faites gaffe, quelque chose pourrait passer. Mais cette fonction d'alarme n'avait pas jusqu'à maintenant du tout un élément impératif. Voilà. Et puis, pour le futur, il faut bien comprendre, vous le savez tous probablement, on parle de 2 instruments différents qui sont traités ou préparés tous en parallèle. Et l'un, c'est le règlement sanitaire international et l'autre, c'est le nouveau traité qui a un nom très compliqué, je vais seulement dire le nouveau traité ou bien New Pandemic Treaty. Ce sont les 2 instruments et ils sont préparés en parallèle. Alors, les régulations internationales, tous les 2, vont être soumis à un vote dans une année, mai 2024. Et comme Astrid a bien dit, oui, pour les régulations, ça va suffire d'avoir seulement un vote avec simple majorité pour l'avoir accepté par l'Assemblée générale. Et puis après, ça va entrer en vigueur après 12 mois, alors mai 2025, si les États membres, chaque État membre individuellement, ne dépose pas une déclaration formelle de rejet. Cette déclaration formelle de rejet doit être rendue 10 mois après mai 2024. Alors, si on ne fait rien là, ça va devenir en force, entrer en vigueur. Tandis que le New Pandemic Treaty, là, il faut une majorité de 2/3 et un acte formel dans chaque pays membre, suivant chaque constitution individuelle, une ratification. Et dans la Suisse, chez nous, il faut une vote. Parce qu'il s'agit d'un contrat, d'une convention internationale avec un effet de change face à la constitution, à notre constitution. Ça, obligatoirement, ça doit être au référendum ici en Suisse. Et à mon avis aussi, le premier instrument, comment on va voir ces régulations, ces adaptations, les propositions vont gravement changer notre constitution. Alors pour cela, il faut aussi pour ce premier instrument un vote mandatoire. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut dire déjà maintenant? Oui, c'est tout sur la table et ils ont même s'ils sont des formes différentes, on peut bien identifier des thèmes communs qui sont poursuivis par tous les deux instruments en parallèle. Nous ne savons pas leur logique, mon interprétation personnelle est assez simple. À mon avis, ils veulent mettre sûr qu'ils arrivent à leur but, d'une manière et d'autre manière, en même temps. Si ça ne marche pas avec le treaty, on aura au moins l'adaptation des International Health Regulations. Ils veulent maximiser leur chance qu'ils viendront au but. Voilà. Alors, ce qu'on peut identifier avec tous ces deux instruments, numéro un, c'est une extension énorme des justificatifs pour les urgences sanitaires. Déjà maintenant, on a vu que cette urgence sanitaire internationale a duré 3 ans, a commencé fin janvier 2020 et a été terminée, comme Astrid l'avait dit, le 5 mai, il y a 2 semaines alors. Alors, ça a déjà été un abus du pouvoir. Et donc, pour le futur, on va être confronté avec le fait qu'il y aura beaucoup plus de justificatifs, des constellations de faits pour annoncer un fake. Puis après, et ça c'est une des raisons pour laquelle on aura beaucoup plus des urgences internationales, et si on n'arrive pas à l'arrêter, ça sera le concept One Health. En français, c'est une seule santé. Merci. Voilà, tout à fait. Une seule santé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut seulement dire que l'OMS va être responsable, pas seulement pour les maladies qui sont directement liés à l'homme, à la santé de l'homme, mais aussi inclus les changements climatiques, la perte de biodiversité, les dégradations des écosystèmes, risques à l'interface human-animal environment et tout ça. Autrement dit, ça peut être tout. ça peut être tout. Et on ne peut pas voir où ça va s'arrêter. Voilà. Et alors, ça c'est, je reviens à mon à le principe que j'avais déjà mentionné. Alors, le plus grave, l'intervention d'une autorité se déroule. Le plus clair doit être la justification. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que la justification ne pourrait jamais vraiment être bien contrôlée de notre part. Et ça ouvre la porte pour des urgences internationales pour n'importe quelle raison. Voilà, puis numéro 3, ça c'est très important et je vais naturellement vous montrer les parties exactes où ça se trouve. Les recommandations de l'OMS, qui s'appelait jusqu'à maintenant recommandations, vont devenir impératives. Et ça veut dire que l'OMS deviendra un gouvernement mondial de la santé pour toutes les matières qu'elle, l'OMS pense et fait partie de la prévention ou bien du management des pandémies internationales. Voilà. Et voilà. Et puis, numéro 4, les droits de l'homme. Et ça, c'est un point le plus facile à découvrir. Vont être mis derrière le concept d'équité. Et ce concept d'équité, assez remarquable, n'est pas un concept qui sert les droits et la santé des hommes du tout. C'est un concept qui doit servir finalement l'OMS et les producteurs. Parce que le but ou l'idée et le concept derrière cette équité est que chaque pays doit avoir le même accès pour, au diagnostic et aussi surtout au vaccin. Et on peut entendre les débats qui sont quelquefois qui sont publics, et c'est toujours le même narratif. C'est ils disent oh, c'était vraiment un grand problème dans la pandémie derrière nous, que pas tous les pays ont eu la chance de recevoir les mêmes quantités de ces substances. Ça, il faut faire mieux la prochaine fois. Voilà, ça c'est equity, ou en français équité, et ça doit être plus important que les droits humains, et je reviendrai à ça. Numéro 5, et ça c'est vraiment it's very bad, infodémique. C'est le contrôle total de l'OMS sur l'information, sur toutes les informations en ce qui concerne notre santé et la pandémie. Et ce n'est pas seulement restricté à l'information active, mais c'est aussi, ça couvre aussi le droit d'exercer censure, voilà. Voilà, d'appliquer la censure. Et en plus, c'est très clair, vous pouvez le lire dans l'article 18, il se réserve le droit, et ça, c'est déjà le cas maintenant, c'est déjà depuis quelques années une pratique que l'OMS peut utiliser des bots, des moyens techniques très sophistiqués pour aller dans les réseaux sociaux, comme naturellement, pas officiellement, mais comme bot qui est dégagé comme un Trojan horse, voilà, pour trouver, pour identifier informations fausses et naturellement aussi ultimativement pour établir censorship. À mon avis, c'est un des aspects qui sont les plus graves de toute cette conception et sont une preuve que l'OMS ne poursuit pas du tout la santé des hommes. nous savons tous que la base pour chaque décision est la bonne information. Et la bonne information se développe d'un discours ouvert. Eh bien, si, avec cette situation-là, nous savons tous les référentes. Il y avait Geert van den Bosch, que nous savons tous que la qualité de ces injections est tellement négative. Nous savons tous que ce grand thème a été sujet d'une manipulation énorme, et surtout une démocratie peut seulement exister si elle est assurée un accès libre à toutes les informations. Alors ça, c'est une preuve, absolument une preuve, que l'OMS suit une agenda et veut nous manipuler. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Oui, alors deux éléments sont absents, et c'est important de le dire, parce qu'on devrait expecter de chaque institution avec un tellement grand pouvoir, un mécanisme de contrôle, un mécanisme de responsabilité, et ça, c'est absolument pas le cas. Et aussi, on ne voit pas de mécanisme de checks and balances. Alors, les États membres ne seront pas du tout dans la position de soumettre des objections contre une déclaration de fake. Voilà, alors ça, c'est un sommaire, et je pense que pour le moment, c'est une bonne plateforme de commencer ce grand topic. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'OMS? Quelles sont les conséquences? Bon, alors c'est clair, l'OMS veut prendre le leadership exécutif dans le domaine de la santé dans tous les pays. Alors c'est la source de du pouvoir qui n'est pas du tout limité, restricté, total leadership. Eh bien, toutes les recommandations de l'OMS deviendront juridiquement contraignantes, impératives. Où est-ce qu'on peut le voir? On peut le voir, entre autres, dans les modifications du RSI, l'article 1, les définitions. Là, je veux dire, il y a les journaux, s'ils rapportent, s'ils écrivent du tout sur ces deux instruments, une des remarques est toujours, bon, alors ça ne sera pas du tout impératif. Alors, c'est pour cela que je vous le fais voir. Une des sources, c'est l'article 1, où vous voyez bien que le mot non contraignant est éliminé. Ce qui reste, c'est l'avis émis. Et on a encore un passage plus forte. C'est l'article 13A. Les États parties reconnaissent l'OMS comme l'autorité coordinatrice et s'engagent à suivre les recommandations de l'OMS, et s'engagent à suivre, ou bien en anglais, undertake to follow. Ça, c'est un terme légal qui définit obligation. Il s'oblige. Voilà. On a aussi d'autres articles, 42, et si on lit toutes ces recommandations, modifications qui sont proposées, on va voir, on n'a aucun doute, ça doit être mandatoire, et on vient à la même conclusion aussi si on écoute à tout ce que les politiciens disent, s'ils parlent de ces deux instruments. Et le message général est toujours le même. Et ils disent, oh, on n'a pas encore bien fait dans le passé avec COVID-19 parce que l'OMS n'a pas encore eu suffisamment de pouvoir. Il est nécessaire que l'OMS doit avoir plus de pouvoir. Et ça, c'est le cas aussi pour la Suisse. Si vous allez sur la homepage du Bundesamt für Gesundheit, là, vous voyez que ça sera l'officiel, le but officiel qui est poursuivi par les... par la partie suisse, par les gens qui font partie de la procédure, d'assurer que l'OMS recevra plus de pouvoir. Et aussi, on a jusqu'à maintenant, on a eu une demande parlementaire ou deux dans la direction dirigée vers le Conseil fédéral. La question était plus ou moins quel est le but qui est poursuivi par le Conseil fédéral avec ses négociations et qui va être le résultat que vous poursuivez. Et la réponse est, voilà, le but est clair, il faut assurer que l'OMS reçoive plus de pouvoir. Alors, si on compare avec le passé et si on ajoute encore plus de pouvoir, c'est absolument clair, on parle des recommandations mandatoires. Voilà. Puis, ce mécanisme, cette urgence internationale qui, dont l'abréviation est FAKE, va permettre à l'OMS de se mettre soi-même en plein pouvoir. Alors, c'est une auto-autorisation. Self-empowerment. Et puis, alors ça, c'est vraiment... sur le niveau des checks and balances, c'est absolument super bête. On peut seulement faire une petite conférence de presse et déclarer aujourd'hui, on a à partir de maintenant un autre fake. Voilà. Pas de questions, pas de challenge du tout. Ça, c'est un ordre qui, avec comme conséquence, permet à l'OMS d'imposer tout. Les recommandations dans la liste qui a été montrée par Astrid Stückelberger en ce qui concerne les diagnostics, les vaccins, les substances et aussi finalement qui vont déterminer les conditions sous lesquelles les États doivent être achetés ces substances. Voilà. Alors, oui, on n'a pas de mécanisme de mettre ça en fin. Et tout ça est basé sur l'article 12, qui a déjà été bien expliqué par Astrid. Et dans cet article, annexe 2 de cet article 12, qui donne un peu plus d'informations, sous quelle justification on peut déclarer ce fake, on voit que c'est remarquable. Si un ou des groupes de cas d'autres infections sévères pour lesquelles la transmission interhumaine ne peut pas être exclue. Alors, je aimerais bien voir le ministre de la Santé qui va se mettre devant Tedros et va lui dire « moi, je peux l'exclure ». Moi, je peux l'exclure. Non. Alors, ça, c'est une porte ouverte de au cas de doute, toujours déclarer le fake. Voilà. Et bien ça, une seule santé, ça je l'avais déjà mentionné. Alors ça c'est un scandale, vraiment un scandale. Ça c'est une logique que personnellement moi je ne peux pas le comprendre. Et l'avantage avec des provisions comme ça, à mon avis, et ça va nous aider à expliquer le grand risque qui vient de ces propositions. Parce que les gens qui, jusqu'à maintenant, ne se sont pas encore occupés avec cet thème si important, ils demandent de la preuve, naturellement. Alors, on peut leur montrer les articles que je viens de vous montrer, et je recommande aussi l'article 18, et on peut demander, alors est-ce que tu veux vraiment avoir le prochain fake illimité avec les conséquences qu'on a déjà eues, mais cette fois-ci seulement pour avec la justification du climate change, CO2. Est-ce que tu vraiment es tellement voilà fou? Voilà. Alors ça, c'est vraiment très remarquable et ça veut dire que l'OMS va être dans la position de déclarer ou bien simuler un fake sans aucune bonne raison, d'exercer un leadership en faveur des intérêts économiques, naturellement, parce qu'avec chaque statut de fake, l'OMS va aussi déclencher un nombre de contrats qui seront activés dès le moment où on aura le statut de cette urgence internationale. Voilà, ça, on est en train déjà, encore, on a deux urgences actives. L'un, c'est monkeypox et l'autre, c'est polio. Polio est toujours actif ici et monkeypox. Et ça, c'est très intéressant pour les producteurs des vaccins parce que si l'on a ce statut avec en combinaison avec un certain virus, ça permet les producteurs d'avoir un bon profit. So this allows the producers to sell their products to the states, the member states. Voilà. Et ça nous mène à la question, comment mettons fin à une pandémie de l'OMS? C'est pas prévu du tout. Pour les États membres, c'est impossible de remettre en cause les décisions de l'OMS. Et il sera impossible d'arrêter n'importe quelle fake donnée. Et ça veut dire aussi que les États membres seront à la merci de l'OMS sans une autonomie. Oui, merci. Alors là, ici, je disais au début que c'est un principe fondamental, pas seulement dans la Constitution, mais aussi dans notre culture, de revisiter, de reconsidérer des décisions avec grandes conséquences. Et ici, on voit que ça sera impossible de revenir à une décision, n'importe quelle décision ça soit, qui a été communiquée par l'OMS. Et ça rendra le contenu de nos constitutions absolument inutile. Je viendrai encore à ce point. Voilà, alors recommandations comme le PCR test qui figure toujours sur la homepage comme test avec the highest diagnostic accuracy. C'est incroyable, oui. Ou bien aussi, à la fin du mois de l'année 2021, Tedros avait dit, alors il faut achever 70% coverage de vaccination COVID-19 et que ça soit global imperative. Global imperative. Alors, ça, déjà maintenant, c'était presque impossible de s'opposer contre cette global imperative, mais même dans le futur, ça sera même plus difficile. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait alors si on aura des résultats comme ça, des informations publiques qui sont valables pour chacun, ici de la source, Eudra Vigilance, il y avait pour une certaine période, il y avait que COVID-19 était la cause première pour des effets indésirables, et ça, vous le connaissez aussi, ça, c'est une étude qui venait à la conclusion que le plus une personne a été vaccinée le plus grand était la chance que COVID-19 était un side effect. Voilà. Et bien tout ça, peut-être ça, j'aimerais bien encore. Ça vient de Sasha Latipova, un researcher des États-Unis. Elle a examiné les effets indésirables liés à des certaines définites slots, c'est quoi ça? L'eau, voilà, des lots. Voilà, elle a bien analysé. Et le résultat était que les effets indésirables étaient extrêmement grandes et graves, et souvent avec les produits mRNA, et comparés avec les effets indésirables pour la grippe normale. Ça, c'était un ou deux événements, le maximum de un ou deux événements dans une dizaine d'années. Deux événements comme ça, et le reste était ici en bas. Et elle a trouvé aussi et publié aussi ses résultats. Elle a continué à faire de la recherche. On peut le lire dans un article qui a été qui est sur l'internet depuis le 3 mai. Elle est décrit très bien que ces substances, que la réponse pour laquelle la qualité de ces substances est tellement mauvaise, et parce qu'ils ont été produits sous un grand projet du Department of Defense des États-Unis. Et c'était le militaire des États-Unis qui a contrôlé cette grande production de toutes ces substances, sur au moins la plus grande partie des substances qui sont sur le marché. Et ça, c'est la raison pour ces grands nombres d'effets indésirables, parce que sous le régime du militaire, on n'a pas du tout des standards établis qui, normalement, devraient être appliqués dans le secteur civil. Alors, c'est beaucoup plus facile de produire ces substances sur le régime militaire. On peut produire n'importe quoi, comme sous le titre de moyens de défense. Et ça, c'est la raison. Cette information n'est pas encore vraiment arrivée en Europe, je pense. Nous le savons depuis quelques mois, mais ce n'est pas encore un thème du tout dans les médias. Et ça, c'est absolument un super scandale si ça va se confirmer que toutes les populations en Europe et dans le monde ont dû prendre des substances où on a su qu'ils ont été produits sous le régime du militaire des États-Unis. Voilà. Et vous pouvez aussi donner la réponse qui va être le récipient, l'adressat de tout, c'est la monnaie qui a été payée de tous nos pays. C'est un super grand transfert des milliards de dollars de la Suisse, de l'Allemagne, de la France aux États-Unis. Alors, ça deviendra encore un bien. Voilà. Et si on continue à permettre ces substances à être distribuées, on a l'intention vraiment de nuire. Voilà. Tout à fait. Voilà. OK. Alors, ça, c'est l'article. Brièvement, le ventre, où on peut voir, c'est dans les modifications des régulations, où vous voyez bien que la dignité human... Pardon, c'est la version anglaise. Pardon. OK, c'est mon anglais. OK. Oui, que la dignité et les droits humains vont être écrasés en faveur du principe de l'équité. Et ça, c'est vraiment grave parce que avec ça, on écrase un principe qui est connu sous le nom du Code de Nuremberg, mais qui est aussi bien défini dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 7. Et ça, c'est l'article contre la torture. Et la deuxième phrase de cet article contre la torture, il dit « En particulier, nul ne peut être soumis à des expériences médicales ou scientifiques sans son consentement volontaire. » Et aussi, cette disposition s'applique même en cas d'urgence publique, même en guerre. Voilà, même en guerre. Et vous voyez ce que l'OMS veut voir, veut faire. On n'a pas du tout d'hésitation d'écraser même le droit de dire non. Et on a toujours le droit de dire non, absolument. Voilà, alors les conséquences pour les États membres, ils perdent le contrôle de tous les aspects fondamentaux de la souveraineté. C'est la perte de l'ordre constitutionnel parce qu'il n'y aura plus de remédie, il n'y aura plus de la possibilité de mettre en question ces décisions. Et aussi, ils perdront le contrôle de leur économie publique aussitôt que l'OMS va donner la recommandation d'introduire de nouveau un lockdown ou bien au moins de réserver l'accès à l'économie publique seulement à ceux qui ont été vaccinés. Et puis aussi, ils perdent la capacité de protéger leur propre population contre des mesures et des substances dangereuses. Et ça, c'est vraiment nightmare. Cauchemar. Voilà, le cauchemar maximal. C'est incroyable. Et je ne peux pas comprendre que je suis le seul avocat juriste qui a ce cauchemar. Je ne peux pas. Voilà, alors c'est incroyable. Mais il y en a encore plus, hein. À plusieurs aspects de ce cauchemar. Lié avec ce concept d'equity, c'est en fait, en résultat, ça sera une économie planifiée et dirigée par l'OMS. Parce que ça sera l'OMS qui va dire, ah, il y a là les pays en Afrique, ils n'ont pas de monnaie suffisante pour produire des substances vaccins pour l'Afrique du Sud. Oui, tout à fait. Eh bien, ça, j'avais déjà dit, voilà, et nous serons maintenus dans un état de peur et de désinformation constant. Un mauvais effet de toutes ces mesures, et finalement, ça sera nous à payer l'écoute de the management of, aussi, naturellement, pour acheter ces produits et tout ça. Voilà. Alors, les citoyens se retrouveront sans aucune protection. J'ai essayé de faire une simple... Alors, ce sont nous, les citoyens, dans tous les pays, et nous, on perd le contrôle sur notre corps, sur notre liberté, sur nos droits. On paye les fiscalités, on paye la taxe avec laquelle les États vont acheter les substances et le OMS aura le plein pouvoir. Dessin peut-être un peu plus éclairant. Alors, l'OMS va être protégée, totalement protégée par l'immunité. Et n'importe quel aspect, on ne pourra pas jusqu'à maintenant rendre responsable l'OMS. hold accountable pour n'importe quel dommage du tout. On voit que sous première demande, si l'OMS va déclencher le prochain fake et va le combiner avec le devoir d'avoir un certain taux de vaccination, alors des grandes sommes de la monnaie vont être transférées à Big Pharma sans que n'importe personne peut dire quelque chose contre ça. Eh bien, ça, ce n'est pas encore la fin parce qu'en utilisant ces substances, la ressource la plus importante que chaque pays possède, c'est la santé de ses citoyens. Voilà. Et alors, ce système, finalement, est dirigé, est une attaque contre la santé de nous tous. La santé et nos droits. Et ça, c'est simplement dit ce qui va se passer. Et ensemble, c'est le dessin, le petit le triangle, je voulais symboliser le propaganda, le droit de nous manipuler et de nous rendre désinformation et censorship. Voilà, ça c'est, autrement dit, l'OMS est hors du droit. Elle agit hors de tout contrôle juridique. Ça est déjà sur la base d'un contrat, d'un accord de l'année 1948. Et vous pouvez vous bien imaginer que, oui, alors il faut terminer ce contrat. Voilà. Et en train, ça c'est le but de nos campagnes. Ça, c'est le but de notre travail, parce que l'OMS s'est éloignée d'une manière tellement extrême de ses buts originaux et est devenue le absolument contraire qu'il n'est plus justifié de maintenir ce accord qui garantit cette immunité. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Voilà, alors seulement brièvement, je veux seulement vous dire, il s'agit vraiment de beaucoup plus que seulement des limitations des droits fondamentaux. Et toujours, si on veut se défendre contre le gouvernement, que ce soit comme citoyen ou bien comme avocat, il faut toujours commencer par la question, c'est quelle est la gravitas, c'est vraiment quelle est la dimension de ces effets de l'intervention, quelle dimension. Et je vous fais une liste de tous les droits fondamentaux qui, dans les derniers 3 ans, ont été violés systématiquement pour un grand nombre de la population et pour une durée de plus que 3 mois. Si on aide ça tous ensemble, ça donne déjà une situation qui on n'a jamais eue, jamais dans l'histoire, dans nos pays. C'est comme dans une guerre. Alors ça, c'est seulement le point de partie, de départ. Et comme j'avais dit, pour chaque intervention, il faut une justification, et le plus grand cette intervention, le plus clair doit être la justification. Et nous savons tous, on n'a pas de justification solide du tout. Voilà. Eh bien, on arrive à la situation, est-ce qu'on est plutôt dans une situation où notre constitution est sous attaque. Et la Constitution est protégée sous le niveau ou bien par des provisions. Il y a plusieurs provisions de l'acte pénal suisse. Ça, c'est un exemple, l'exemple le plus important. Vous pouvez le lire. Celui qui aura commis un acte tendant à troubler ou à modifier d'une manière illicite l'ordre fondé sur la Constitution de la Suisse sera puni d'une peine privative au moins 5 ans. Alors, c'est la question, comment peut-on mesurer les caractéristiques, les éléments centraux de l'ordre constitutionnel? Et je vous ai donné les 5 éléments plus importants qui définissent l'ordre constitutionnel dans nos pays, que ce soit la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche. Numéro 1, ce sont les droits démocratiques, parce que tout le pouvoir vient des citoyens. Tout le pouvoir vient de nous. La Constitution est un produit qui a été fait par les citoyens, et ce sont les citoyens qui, au moins sur une base régulière, électent leurs représentatifs politiciens. C'est le minimum. En Suisse, on a, nous le savons tous, un nombre de droits un peu plus élargi que ça. Et la base pour exercer le droit est la bonne information, l'information correcte et l'absence de manipulation. Bien, l'action est efficace des droits de l'homme. Puis après, le principe de légalité, proportionnalité, l'exécution de toute tâche de l'État selon la Constitution, ça veut dire quand l'État ne peut pas seulement dire « notre seul problème est Covid et le reste, on s'en fout ». Non, pas du tout. On a un nombre devoirs, des obligations qui sont définies par notre Constitution. Et numéro 5, si tous ces aspects 1 à 4 ont failli à fonctionner bien, on a toujours le principe d'une correction par ces principes de limitation des pouvoirs, checks and balances. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est un schéma très, très simple. À gauche, c'est l'état idéal où tout marche exactement, tout en ordre, tout en conformité avec la Constitution, et bien à la droite, c'est la guerre. Voilà. Violation maximale. Et je disais, plus ou moins avant 2020, on avait une situation plus ou moins normale. On avait aussi quelques petits scandales. On avait politique, scandale, mais plus ou moins, on était dans la partie à gauche. Et je me suis dit, alors, comment peut-on juger ces 5 éléments que je viens de vous présenter? Et je vais très très vite. Numéro 1, c'est la question, les droits démocratiques. Est-ce que l'information officielle pour les situations, est-ce qu'elle était correcte? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas d'intimidation, pas de manipulation? Est-ce que le droit des manifestations était protégé? Est-ce que le débat ouvert dans le public était possible? Et le dernier point, nous sommes ici pour avoir un débat ouvert, mais ça devrait tenir place dans les médias. Ça devrait déjà depuis longtemps être une partie prominente à la télé et dans tous les journaux. Et ça ne tient pas place. Voilà, alors, la réponse est pour le premier aspect. À cause de cette désinformation totale et intimidation, on est dans cette situation extraordinaire à droite. Et vous pouvez vous bien imaginer à quoi va ça aboutir. On continue avec les droits de la défense contre l'État. Est-ce que les cours de justice ont vraiment réexaminé les faits relevant sous la loi? Den rechtserheblichen Sachverhalt, est-ce qu'ils ont vraiment bien examiné nos preuves que, pas seulement moi, mais beaucoup des avocats en Suisse, en Allemagne, en Autriche, ont vraiment bien présenté? Est-ce que les cours de justice ont insisté au fardeau de la preuve? C'est l'État qui doit nous prouver qu'on a vraiment un danger, un risque tellement grand qui pourrait justifier toutes ces mesures. Est-ce que les cours ont appliqué le principe de la proportionnalité? Pour répondre à ces questions, il ne faut pas être un avocat. Vous l'avez vu tous. Voilà, les cours ont refusé d'appliquer la Constitution. Le principe de la légalité, la proportionnalité, se montre très vite. Alors, ici, c'est le restaurant Valisakane à Zermatt. Allez-y pour avoir un bon fondu, parce que c'était eux, ces restaurateurs-là, qui ont dit en octobre-septembre 2021, c'était la période où le certificat a été introduit, ils ont dit à la police, quand la police était venue, vous savez, merci, bonjour à la police, mais vous savez bien qu'on n'a pas de base légale pour ce certificat. Nous, on est de bonne santé. Il ne faut pas prouver notre bonne santé avec un certificat stupide. Voilà la porte. Voilà la porte. Et ils ont reçu... voilà. Ils ont reçu chaque soir des visites de la police. Et chaque fois, la police était plus nombreux, avec aussi des pistoles. Et finalement, le dimanche 31 octobre 2021, il y avait 40 polices qui ont pris avec grande brutalité le fils et les parents âgés, déjà âgés, avec grande brutalité, ils ont pris à la prison. Voilà, alors ça, c'est un exemple, qu'est-ce qui se passe si on dit la vérité et si on défend la position correcte et sie verdienen unsere Unterstützung. Ils méritent, voilà, ils méritent notre support. Voilà, tout à fait. Voilà, vous connaissez le reste. Pardon ? Oui, tout à fait. Bravo, bravo, très bien. Et même, c'est en pleine scène, notre président là, oui, en pleine scène, il avait dit dans l'arène, c'était au début 2022, la question était, ah bon, alors monsieur le président, on a pu lire dans les journaux que la plupart des gens qui sont dans les hôpitaux déclarés comme hospitalisés COVID-19 n'ont rien à faire à COVID-19. C'est pourquoi ? Et il a dit, bon, alors c'est normal, si quelqu'un a un accident et il meurt dans l'hôpital, on fait un PCR. Et si le PCR est positif, c'est un mort, PCR. Et le journaliste a dit, mais c'est pas, vous n'êtes pas sérieux. Et la réponse était, oui, ça c'est donné par l'OMS. C'est le système l'OMS. So, alors tout ça est tout à fait contre la légalité, la proportionnalité. Et c'est pour cela que je donne à cet aspect aussi une note négative. Ces mesures de contrainte contre la population et contre la population même qui était en bonne santé, ça c'est un absolument no-go. Et bien, il reste encore deux éléments. Alors, vous savez bien, Covid, c'était la seule base de politique pour 3 ans, une raison d'État véritable. C'est absolument pas acceptable. Et bien, est-ce qu'on a eu une correction? Est-ce qu'on a eu une réexamination jusqu'à aujourd'hui? Non, pas du tout. Alors, les tribunaux suisses ont dit non. Dans les cas de pandémie, il faut donner les autorités un peu une marge d'appréciation élargie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Comme comité de juristes, on a écrit au Parlement suisse, au Parlement, et on leur a dit, alors maintenant, vous, c'est votre devoir, dans votre capacité de pouvoir le plus haut dans la Suisse, vous allez réexaminer la justification du fake. Et vous savez la réponse? La réponse est, si l'on est dans un fake, on ne peut pas réexaminer la justification du fake. Solange wir einen Notstand haben, können wir als Parlament den Notstand nicht überprüfen. Meine Güte. Ça, c'est vraiment, ça veut dire que notre démocratie était déjà déactivée du moment où Tedros a déclaré cette urgence internationale et personne vraiment doit me dire que c'est que ces nouvelles changent, ce sont seulement des recommandations absolument unverbindlich. Seulement. Non, ça a déjà été impératif, 100%. Ok, alors je viens à la fin. Et tout ça, oui, a duré entre 2 et 3 ans. Et quelle est la conséquence si on voit une situation comme ça? Et de nouveau, il ne faut pas être un juriste. Si je demande mes enfants, 12 ans, 15 ans, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut... Normalité. Il faut revenir à la normalité. Voilà. Oui, ça... Voilà, il faut faire une investigation, reassessment, il faut revenir à la normalité et vraiment assurer que ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Voilà, et ça c'est la situation, la base sur laquelle on voit maintenant toutes ces nouvelles propositions qui veulent faire quoi? Ils veulent faire que ça sera la nouvelle normalité. Voilà, et là il faut dire non. Alors, je viens à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça, c'est la situation. Est-ce qu'on a une révision en perspective? Non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça. Oui, vous savez, on pourrait déjà dire beaucoup de choses de plus. Parce que, pardon? Oui, merci. Pardon, ça c'est déjà... Ok. Ça. Pardon, ça c'est... Ok. Solution. Numéro 1. Je vous invite à vous lever, tous. Voilà. Voilà, je vous invite. Ce n'est pas obligatoire, mais si vous voulez. Mais j'aimerais bien vous dire quelque chose. Chers confrères, consoeurs, concitoyens, la loi est définie par nous, par le peuple et pour le peuple. Et nous avons le droit naturel, nous avons le droit originaire de protéger notre santé, de protéger notre dignité humaine et nos droits fondamentaux. Alors la première chose qu'on va dire à ces propositions, ces deux instruments, ça sera un grand non. Voilà, merci beaucoup. Très bien, c'est le premier. Merci, merci. Alors, pour être un peu plus précis, numéro un, il faut demander que ces négociations soient suspendues avec effet immédiat, suspendu. Aussi, il faut demander que ces fake doivent être terminés immédiat. Polio, monkeypox, stop, absolument. Puis, numéro 3, je l'avais déjà dit, il faut commencer avec une enquête internationale sur tout ce management, la gestion COVID de l'OMS, avec les questions qui sont sur la table. Qu'est-ce qui est vraiment l'origine du virus? J'aimerais bien parler après avec Robert Parson, le journaliste qui a déjà parlé là-dessus. Quelle était vraiment la dangerosité réelle du Covid? Tout à fait, qui a contrôlé cette extension, répétition de fake et tout ça. Il faut faire une enquête internationale et en plus, en parallèle, il faut faire une enquête dans la Suisse, sur notre niveau aussi, avec les questions en parallèle. Voilà, qu'est-ce qui reste à faire? Il faut insister, il faut vraiment insister qu'on établisse un mécanisme de contrôle efficace dans la constitution de l'OMS, s'il va survivre, est drôle. Bon, mais pour un premier pas, il faut demander. C'est inacceptable. Ce concept de totale immunité, c'est absolument inacceptable. Ceux qui prennent des décisions avec un tel grand effet contre notre santé et contre toute notre vie doivent prendre aussi les conséquences, la responsabilité. Voilà. Eh bien, il faudra certainement un mécanisme, une convention internationale qui va nous rendre de la protection contre toutes les substances nocives. Naturellement, chez nous, en Suisse, on aura des référendums obligatoires sur pas seulement ce New Pandemic Treaty, mais aussi sur les modifications du RSI. Voilà. Alors, maintenant, pour le moment, c'est tout. Je vous remercie vraiment pour votre attention et je me réjouis de travailler ensemble, tout ensemble. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.
Merci d'être venu aussi. Hein.